foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Ce soir avec Claire Brossolette. Merci Claire d'être revenue, parce qu'en fait nous nous étions déjà rencontrés d'abord dans cette émission ouverte sur nos convictions et nos croyances, et vous étiez venue parce que vous êtes spécialiste de Jacques Maritain au mois de juin, avant les départs en vacances. Et aujourd'hui vous venez aussi parce que vous êtes présidente de l'association Culture au Village. Alors, il faut dire aux auditeurs qui vous connaissent, aux auditeurs que vous venez pour deux émissions à Radio Présence régulièrement, La philosophie réaliste, le mercredi à 17h30, rediffusée le dimanche à 12h30, mais aussi, parce que ça c'est très pointu, hein, c'est de la philosophie, c'est Maritain, on en reparlera peut-être dans notre dialogue. C'est pas un dialogue, c'est moi qui parle en ce moment, pardon.
Wow, écoutez, non, c'est tellement bien d'être réinvitée, je suis tellement heureuse, d'autant plus que Maritain fait une distinction entre parler ou agir en chrétien ou en tant que chrétien. Et là, c'est vraiment en tant que chrétienne, c'est une autre manière de parler que dans l'émission sur la philosophie réaliste.
Oui, mais ma foi, j'y crois, elle est ouverte à toutes les convictions. Nous avons entendu des personnes qui viennent des courants de la Réforme, des courants orthodoxes ou anglicans parmi les chrétiens. D'ailleurs, il y aura d'autres émissions sur l'unité des chrétiens et l'Avent. Mais nous avons aussi ouvert cette antenne, et je remercie le directeur, à des non-croyants, des agnostiques, communistes ou même francs-maçons, parce que cette émission s'ouvre à des questions fondamentales de notre société qui est en crise, avec des attentats, avec ce virus. Et moi, j'aime bien vous écouter également dans une petite émission très courte qui s'appelle Actu Philo.
Oui, c'est le vendredi matin et c'est très drôle pour la préparer parce qu'il faut être très concis, très bref. Ce qui m'aide, c'est de savoir qu'on peut l'écouter en différé. Ça me permet d'être assez dense et d'avoir des auteurs variés. J'aime beaucoup votre émission parce qu'elle est variée et je pense que c'est le reflet finalement de l'Église, Ecclesia, appelée hors d'eux pour venir dans un même lieu.
Puis vous réagissez à chaud à des problèmes fondamentaux, à des crises, à des questions de société. Mais alors moi, je me présente comme sociologue agnostique, c'est-à-dire que des outils que sont les sciences humaines, depuis le Concile d'ailleurs, doivent nous aider à poser cette tension entre la foi, la raison, la croyance, autant de mots qui, pour chacun d'entre nous, signifient quelque chose, mais en même temps peuvent diviser les hommes. Alors la philo, c'est un outil aujourd'hui pour comprendre le monde et vivre en paix.
Je le pense, j'en suis convaincue, parce que l'intelligence, c'est ce que nous avons finalement en partage avec les anges et avec Dieu.
Les anges?
Oui, les anges. Dieu. Je viens vous provoquer.
Tout de suite, c'est des grands mots de métaphysique.
Je suis provocante, parce que je pense que c'est une des facultés les plus hautes de l'homme. Et du coup, son exercice nous permet d'être plus humains. Et alors la philosophie, bien sûr, Jacques Maritain, pour moi, est un phare. Et dans les événements actuels, il y a un texte que j'aime beaucoup, « Principe d'une politique humaniste », écrit en 39-42, où il fait la distinction entre l'autorité et le pouvoir, disant que finalement la démocratie, telle que Rousseau la conçoit, évince l'autorité et ne se fonde que sur le pouvoir, et que cette éviction ne peut conduire finalement qu'au fanatisme et à l'état totalitaire. Alors il y en a plusieurs vagues, hein. il voit depuis New York où il est, pendant la guerre, toutes les vagues, le fascisme, aussi bien le stalinisme, mais je pense que le radicalisme extrémiste que l'on voit renaître un peu partout sur le globe peut être une des conséquences de cet oubli de la auctoritas, comme on dit, l'autorité.
Pouvoir, autorité. Mais tout de suite, vous partez dans des grands mots. L'humanisme, est-ce que nous ne sommes pas dans une société très matérialiste où c'est l'argent qui gagne, c'est le pouvoir de ceux qui ont des médias ou qui diffusent des mauvaises nouvelles, les fake news ? Humanisme, matérialisme, bon, vous êtes philosophe, mais ça veut dire quoi aujourd'hui ?
Alors, humanisme et matérialisme, vous avez bien raison de les mettre en perspective, parce que il y a un troisième mot qui les soude, dont on a entendu beaucoup parler avec la notion de liberté d'expression. Le troisième mot qui les soude, c'est liberté. Et Maritain, pour renvoyer encore à ce texte, dit que la liberté, depuis la Renaissance, elle est donnée de fait, alors que pour lui, la liberté s'acquiert. Et il propose une politique humaniste où il y a une acquisition en commun de la liberté parce que nous sommes tous orientés vers un bien commun. Donc c'est bien l'homme qui est au centre, mais un homme qui va sortir de cette possession dont vous parlez très bien avec l'argent, avec le matérialisme, parce que cette possession s'appuie sur ce terme finalement de la liberté. Je fais ce que je peux.
Il n'y a plus de classe ?
Alors, il n'y a pas de lutte de classe, il y a une compréhension de l'altérité. Dans ces principes d'une politique humaniste, il y a plusieurs textes, et le dernier s'intitule « Qui est mon prochain ?». Et je pense que l'encyclique du pape est aussi un écho. Dans cette encyclique de Fratelli Tutti, le pape met au centre la parabole du bon samaritain. Il y a bien des classes. Il y a un lévite, il y a un prêtre, il y a un samaritain, il y a un pauvre blessé, il y a un aubergiste. Mais il y a une complémentarité. Quand le samaritain prend le blessé, il va le laisser chez l'aubergiste. Et c'est plutôt dans cette complémentarité, parce qu'il y a une transcendance qui permet de transcender la violence inhérente à l'homme, c'est le bien commun.
Mais le pharisien ou le prêtre, ils étaient obligés d'aller à leur travail. Ils ne pouvaient pas toucher quelqu'un d'impur. Ils auraient été obligés ensuite de se purifier. Et on comprend très bien, enfin, lorsque nous reprenons dans le contexte de l'époque, la parabole que Jésus nous enseigne, on voit bien que... Enfin, on voit bien, non. Il faut interpréter ces textes qui, pour certains, sont la parole de Dieu. Alors, d'autres vont dire, mais les musulmans considèrent le Coran comme la parole divine, simplement, ils ne la considèrent pas tous de la même manière. Et pour certains, c'est vraiment une hérésie de dire qu'on peut tuer parce qu'on imagine qu'il y aurait eu un blasphème. Et dans l'Église catholique, on peut dire que certains disent « mais je n'ai pas la liberté d'interpréter les textes de la manière ». Peut-être qu'il y a des mauvaises interprétations de l'Évangile aujourd'hui.
Ah, j'aime beaucoup votre question qui pour moi se divise en deux. La première, c'est la lecture du texte. Et c'est vrai qu'on met souvent en perspective les trois religions dites du livre. Et je crois qu'on peut faire une différence entre la religion chrétienne et le judaïsme et la religion musulmane. C'est que la religion chrétienne est la religion de la parole. Le Christ n'a rien écrit. On a quatre évangélistes qui se complètent, qui diffèrent. Et puis saint Paul, le cinquième, on va dire, apôtre. Et je crois que le deuxième point sur lequel vous avez insisté par rapport à cette lecture de la parabole du Samaritain, c'est le rapport à la loi. Il y a une loi qui interdisait de ne pas faire son travail. On va à Jérusalem, on ne touche pas pour ne pas être impur. Et c'est très juste comme remarque. Et ce qui peut permettre de dépasser la loi ou de la recentrer, c'est la notion de justice ou d'acte juste. Et là, le prochain vient transcender la notion de loi. C'est comme ça qu'on peut justement interpréter cette parabole.
La question de la loi et de la liberté pose aussi la question de la rencontre de l'autre. Nous avions pensé présenter un texte du dominicain Adrien Candiard à propos des drames et des meurtres au nom de Dieu actuellement, où il nous dit que la caractéristique du fanatisme n'est pas d'aller au fond des choses, ou alors d'appliquer la loi, la règle, mais c'est de dévoyer les textes. Et on dit, j'ai appris ça, j'ai lu ça, j'interprète tel verset de la Bible ou du Coran, et j'en déduis donc que je suis obligé de faire ça. Quelle que soit, alors la conscience, là, comment elle l'interprète. Maritain était converti.
Alors, Maritain est un converti et c'est bien que vous fassiez le lien. Il était, on va dire, quasiment anarchiste quand il avait 17 ans. Sur ses cahiers de Henri IV, on voit la propriété, c'est le vol, il est fasciné par Proudhon, il faut pendre le dernier des croyants avec le boyau des derniers des prêtres, des citations de ce style.
Un malclericalisme.
Voilà, il sèche les cours du lycée Henri IV avec son ami Ernest Picari pour aller militer en faveur de la cause de Alfred Dreyfus. Et ce qui va tout faire basculer dans sa vie, c'est qu'il va rencontrer Léon Blois. Léon Blois est un pamphlétaire, auteur de La femme pauvre et du désespéré. Et Léon Blois vit avec ses deux filles, sa femme, un chien, une guitare, sur la butte de Montmartre, dans une masure très pauvre. Et finalement, il vient casser une équation qui dérangeait Maritain, à savoir chrétien égale bourgeois, et donc riche. Et donc, ça ne peut pas aller avec le message évangélique qui met au centre la pauvreté. Cette rencontre est fulgurante. Raïssa et Jacques Maritain et Vera, qui vit avec les Maritains, vont être convertis et recevront le baptême le 11 juin 1906 et Léon Blois sera leur parrain.
Vous nous dites aussi que Raïssa est une femme juive non pratiquante. Et c'est dans cette tension entre la fidélité à, disons, à la Bible, l'Ancien Testament, qui va être relu, qui va être médité, qu'il y a en fait une réflexion par rapport à, on va dire, une sagesse universelle.
Tout à fait, ils ont soif. Ils sont à peine mariés, qu'ils font le vœu de se donner la mort si dans les 6 mois, ils n'ont pas trouvé une réponse au sens de la vie. Et je pense que ce que vous avez souligné dans cette lecture du texte en disant « ben moi, je pense que » qui peut autoriser le fanatisme, c'est aussi lié aux chiffres. La notion de masse, hein, masse et puissance, Canetti ou d'autres auteurs ont souligné que le XXe siècle pense la masse, là nous sommes des chiffres qui font nombre. Et c'est ça que dit le totalitarisme actuellement et le fanatisme.
Alors nous sommes en plein dans une réflexion sur la culture, mais vous nous avez apporté une image et puis ensuite une musique qui va nous permettre de méditer un moment, s'il vous plaît.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et ce soir, avec Claire Bressolette, vous nous avez pas encore parlé de votre association La Culture au Village, mais d'abord, pourquoi cette musique si apaisante ?
C'est la musique, vous l'avez reconnue, Liebeslied de Kreisler, donc Chagrin d'amour. Je l'ai choisie parce que c'est du lyrisme. C'est du lyrisme rond, doux, consolant, nostalgique, qui exprime beaucoup de choses par rapport aux événements actuels dans le monde. Et puis en même temps, qui pense les plaies, qui vient penser les plaies. Et je pense que l'amitié, le fellowship, l'amour d'amitié est une des valeurs qui peut permettre d'aller vers l'espérance et vers un nouveau monde. Quant à la photo qui va être sur le site, elle est magnifique. C'est une croix prise en Bretagne, dans l'ermitage habité par Philippe MacLeod. Philippe MacLeod est décédé, c'est un poète très étonnant qui a tout quitté pour s'isoler du côté de Lourdes, puis en Bretagne, et il avait ce paysage sous les yeux pour porter sa méditation et son art poétique. Alors la croix se détache sur l'eau et sur le ciel au moment du crépuscule. Et c'est une photo faite sans flash, sans rien, sans autre éclairage. Elle est splendide. On ne voit qu'une croix très élégante, très fine. L'horizontale et le vertical, le symbole de la croix, dit tout comme salut pour notre monde. Non.
Le salut de la croix ne dit plus dans notre société, dans notre culture qui n'est plus chrétienne. Nous sommes passés par la sécularisation. Vous parlez de la croix, mais pour beaucoup, ce n'est même plus un symbole d'espérance. Je ne me fais pas l'avocat du diable en disant cela, mais notre culture, notre civilisation est-elle encore religieuse ou chrétienne ?
Non, vous avez raison. On est passé à une religion laïque et c'est vrai, je n'ai pas mesuré que
c'est votre foi.
C'est ma foi, Claire. C'est ma foi tout à fait. Et puis c'est un autre mot, c'est la tradition. C'est-à-dire que je pense que le fanatisme qui dit « je lis le texte, je l'interprète comme ceci », Il oublie peut-être une composante, c'est une tradition. Et on l'a vu dans la réaction de plusieurs musulmans qui disent « mais ce n'est pas nous » et on est catastrophé de voir cette interprétation-là.
Effectivement, l'absolutisation des textes que certains disent sacrés et que d'autres disent « ben non, ce sont des productions humaines ». Pourquoi est-ce que la Constitution de la République française ne serait-elle pas considérée comme sacrée ? Puisque nous n'avons pas le droit de la bafouer. Mais d'autres sociétés, je pense aux marxistes, aux chinois ou à d'autres, peu importe où et quand, on dit que cette constitution est un chiffon de papier, comme les droits de l'homme. Pardon, les droits des humains, parce qu'il ne faut pas oublier les femmes, mesdames.
Merci. Alors, la notion de sacré, bon, elle est complexe et elle s'oppose à profane. Et là aussi, je suis encore une adepte de Jacques Maritain qui dit « La question du profane et du sacré, elle est païenne. Ce qui compte dans un régime chrétien, c'est la sanctification. C'est donc la sainteté qui vient faire exploser ce binôme sacré-profane. Et du coup, on ne peut pas dire que la constitution de la démocratie française est sainte. Voilà. Alors, c'est à chacun d'aller vers la sainteté. Une chose n'est pas sainte. C'est la sainteté, il n'y a qu'une seule tristesse, celle de n'être pas des saints, pour citer Léon Blois, souvent repris. Et je crois que c'est très juste, c'est l'homme qui reste au centre.
Alors, le philosophe, vous-même, vous avez apporté une longue citation sur la coexistence de plusieurs croyances.
Ah oui, j'aime beaucoup ce texte qui vient conclure « Qui est mon prochain ?» qui est le quatrième volet de « Principes d'une politique humaniste ». Et voilà ce qu'écrit Maritain. « Le jour où tous les fidèles pourront vivre avec les hommes d'autres croyances, en gardant à leur égard de parfaites vertus de justice, d'amour et d'intelligence, et en gardant en même temps la vraie foi parfaitement intègre et pure en eux-mêmes, en réalité, les hommes n'auront pas besoin ce jour-là de pratiquer ces vertus envers des gens d'autres croyances, parce que l'infidélité et la division religieuse auront disparu de la face de la terre ce jour-là. » Message plein d'espérance qui vient commenter finalement le texte de saint Paul qui dit « Les hérésies doivent se produire pour l'éducation de l'humanité, commente Maritain, et pour préparer les voies à une unité qui prendra place à la fin. » C'est peut-être utopique, mais je pense que ça peut nous permettre de lire les événements actuels dans une grande espérance.
Alors, la lecture du sociologue que j'en fais reste muette devant des termes qui ne me disent rien, vertu, justice, amour, combien de dévoiement, combien d'affrontements, parce que le terme d'amour à l'intérieur d'une famille ou le terme de justice à l'intérieur d'un parti ou d'un syndicat font l'objet de tensions. J'aime beaucoup que vous ayez créé cette association, La Culture au Village, dont vous êtes coprésidente avec vos frères et sœurs sur un héritage de votre maman. Et dans notre première émission, nous avions parlé aussi de l'héritage de votre papa. Dites-nous pourquoi cette association Culture au Village aborde le sacré à travers le beau.
Oh, c'est une question qui me touche à cœur, parce que je pense que pour faire encore de la philosophie, dans les transcendentaux, l'un, l'être, le bien, le beau est un transcendantal qui unit tous les autres, parce qu'il s'agit de la gloire de Dieu. Il y va de la gloire de Dieu.
Mais Dieu, on met tellement de choses et d'idoles derrière ce nom.
Mais oui, vous avez raison de souligner.
Je vous respecte si vous avez une interprétation de Dieu, mais si c'est ce vieillard barbu ou bien si c'est... je ne sais pas, ce frère mièvre qui marche pieds nus dans la campagne, mais il y a 2000 ans, et Dieu aujourd'hui. Quelles sont les idoles qu'il faut ? Vous avez parlé d'hérésie, d'autres parlent de blasphème. Pourrons-nous demain vivre ensemble avec d'autres images de Dieu ?
Je pense qu'il faut casser les idoles. Pour moi, toute la lutte de l'Ancien comme du Nouveau Testament, c'est la lutte contre les idoles. Et Dieu, amour, justice, vertu sont des mots creux, des mots vides, parce qu'ils ont été brandis par les grandes idéologies totalitaires pour dire tout autre chose que ce qu'ils sont en réalité. Donc là, on touche une autre question qui est celle de la place de l'intelligence, du rapport aux mots, des choses. Mais pour revenir à Culture au Village, c'est une association qui me tient à cœur parce qu'elle essaie de mettre l'homme au centre. Ce n'est pas une culture réservée à une élite, c'est pour tout le monde. Ça reste dans un milieu très familial, très humain, à petite échelle. La mairie de Rouffiac-Tolosan, où on est implanté, en a vu finalement l'aspect positif puisqu'elle vient d'ouvrir une médiathèque et elle a délocalisé deux ateliers, l'atelier philo et l'atelier écriture, dans la médiathèque. Et j'y tiens particulièrement à cœur parce que pour moi, c'est même une orientation personnelle de vie. Après les 3 ans d'accompagnement de maman, qui n'ont pas été 3 années de parenthèse ou de plateforme, c'est 3 années d'approfondissement et peut-être une autre manière d'enseigner. Je crois que les petits groupes, les petits îlots, tout ce qui est petit, les petites embarcations, ont plus de chances de traverser les grandes tempêtes que nous voyons que les grandes institutions.
Et l'intelligence, parfois, si elle nous amène à creuser des problèmes de société, peut faire que nous ayons le cœur sec, d'où l'intérêt. Vous faites de l'orgue, vous êtes musicienne et vous accueillez des peintres.
Ah oui, vous avez souligné cette pratique pour moi fondamentale de la musique et des arts croisés. Et vous avez eu une expression, le cœur sec. Maritain a une très belle formule en disant il faut avoir l'esprit dur et le cœur doux. Certains ont l'esprit mou et le cœur sec. Et je crois que l'esprit doux renvoie à cette vision finalement d'amour avec différentes strates. Hein. Mais l'amour d'amitié qui reste au centre de la vie de Maritain est pour moi aussi un héritage familial, paternel, maternel. Et je crois que c'est de ça dont on peut témoigner aujourd'hui à travers Culture au Village.
Alors, nous avons parlé de philosophie, de sociologie, mais peut-être faudrait-il une autre émission pour évoquer les théologiens, et qui peuvent être aussi parfois avec le cœur sec ou avec des tensions sur les dogmes, sur l'évolution depuis Augustin ou Saint Thomas. Pour le mot de la fin, pourrait-on dire que c'est l'humilité et la prière vers l'autre, le grand autre, le dialogue interreligieux. Nous sommes dans ces mois de l'Avent pour les chrétiens, mais nous sommes aussi dans ces semaines du dialogue interreligieux. Et lorsque deux croyants ont une expérience rare, ils n'ont pas à parler d'abord de leur dogme et ce qui les divise, mais peut-être dans leur quête d'une recherche vers l'absolu et peut-être le silence.
Oh, que j'aime votre conclusion. Le silence, et vous parliez de se faire petit, de cette humilité, et me vient en tête le magnifique hymne aux Philippiens. Dieu s'est fait esclave de conditions divines, il n'a rien retenu. Il s'est fait esclave et esclave jusqu'à la mort. Et cette idée de descente, de service, d'humilité, l'autre est notre prince, c'est-à-dire notre roi. Et quand on l'aborde, se dire, quelle que soit sa croyance, sa foi, sa condition sociale, on a à être en dessous de lui. C'est une attitude qui permet beaucoup de choses.
La dépossession de soi qui nous ouvre vers l'accueil de l'autre.
Exactement, l'expropriation de soi. C'est un mouvement complètement centrifuge, qui est le contraire de ce que vous soulignez en début d'émission, le matérialisme, on prend, on a, on augmente une sorte de capacité d'ego, alors que là, on s'ouvre.
Merci Claire, à bientôt.
Merci à vous.
Et merci à Christophe qui a fait l'enregistrement.
Merci encore, au revoir.